Comment ça va, David?
Comment ça va, les amis?
Ça va très bien, toi?
Ça va très bien, David.
Parfait. Donc, vous êtes capable de me voir, là? On a tout réglé au bureau, là?
Ouais, tout est parfait, David. C'est important qu'on puisse te voir, voir ta belle face. Les gens aiment ça de voir, on est contents.
C'est réciproque.
Ouais. David, pour commencer, le Canadien qui est 8-3 après 11 matchs. Pour toi, qu'est-ce qui est le plus impressionnant dans ce début de saison-là?
Moi, ce qui m'impressionne le plus réellement, c'est l'éclosion, je dirais, l'apport des nouveaux joueurs qui sont arrivés dans cette équipe-là, dans un délai si court. Des gars qui n'étaient pas là l'année dernière, comme Demidov, Kapanen, Bolduc, malgré qu'il y a eu des hauts et des bas, mais il a marqué des buts importants dans les premières parties. Dobson, qui a joué un rôle névralgique. Donc, je pense que ces quatre joueurs qui n'étaient pas des réguliers ou pas du tout avec les Canadiens l'année dernière sont venus remplir des besoins nécessaires et on voit la différence. On voit ce qu'un Dobson amène, ce qui apporte à un Matheson. On a vu ce qu'un Kapanen est capable d'amener comme remplacement sur un deuxième trio, avoir une bonne constance avec Demidov. On est en train de voir des choses intéressantes, des jeunes se développer, des jeunes avancer et des jeunes gagner. Donc c'est sûr que c'est pas parfait. On a vu plusieurs fois les Canadiens perdre certaines avances dans plusieurs parties. Ça, c'est disons un manque de constance ou disons de revenir à la base lorsqu'on mène par 1, 2, 3 buts. Ils doivent travailler là-dessus, mais dans l'ensemble, on voit vraiment une amélioration au niveau des jeunes et des nouveaux venus à l'intérieur du club cette année.
David, parlons un peu gardien de but. Dobesch qui est 6-0, phénoménal. Peut-être un petit mot sur Dobesch. Et sinon, est-ce que la situation de Montembeau commence à t'inquiéter? En fait, est-ce que tu penses que là, il devrait y avoir une gestion différente et est-ce que c'est lui qui est devant le filet samedi?
Bon, est-ce que ça ne m'inquiète pas encore? On en a parlé la semaine dernière. Je suis pas rendu au stade de l'inquiétude encore. Par ailleurs, ce que je pense, pour répondre à ta question, Stéphane, je ne serais pas surpris que les Canadiens ramènent Monty contre les Sénateurs samedi.
Ouais.
Pas nécessairement parce que c'est le meilleur choix, parce que dans sa carrière, Monty contre les Sénateurs, c'est en bas de 500. C'est 6 victoires, 7 défaites, d'à peu près 880 de pourcentage d'arrêt, 3,19 de moyenne. Il n'est pas fameux contre les Sénateurs, Monty. Sauf que je pense que les Canadiens ne vont pas vouloir, disons, créer une tempête où il n'y a pas de tempête. Donc, imaginez s'ils ne le ramènent pas après un long voyage. Ils ne l'ont pas fait jouer les dernières parties. Donc, automatiquement, les gens vont commencer à créer une querelle. Et je pense que pour le bien de Monty, pour Montembeau et pour les Canadiens de Montréal, faut que tu le renvoies dans la mêlée, même si idéalement, ça aurait été dans le match de mardi contre les Flyers, ça aurait été beaucoup plus, disons, approprié. Mais je pense que dans ce cas-ci, il doit revenir. Les gars vont devoir jouer serré pour l'aider. OK? Et lui, il va falloir qu'il gagne en confiance et qu'il parle à la machine. Parce que les amis, comme je vous ai dit la semaine dernière, les Canadiens vont vraiment avoir besoin de lui s'ils veulent avoir une chance d'aller loin dans la saison. Donc, ils ont absolument besoin de lui.
Là, David, parlant de gardien, si on regarde les tandems de la LNH puis le montant que les deux gardiens gagnent, tu regardes le tandem du Canadien de Montréal, est-ce que le Canadien a un des meilleurs tandems? C'est quand tu prends vos points de vue rentabilité, salaire et performance.
Un des trois meilleurs, à mon avis, dans la Ligue nationale. Les Canadiens, Monty et Dobesch, c'est 4,115. 4 millions pour deux gardiens qui sont capables de te donner minimum 40 victoires cette saison. Je pense que quand on regarde un peu ce qui se passe ailleurs, on pourrait tous les énumérer, mais une équipe aussi pitoyable que Buffalo, qui ont Lukonen et Lyon, sont à 6,25 pour les deux. Celle, oui, ça va tellement mal. Ils ont Bennington avec Hofer à presque 10 millions. OK? Demko, Lincoln, Vancouver, ça va pas bien, ils sont à 13 millions. Je parle pas de tous les autres, je parle pas de Tampa Bay et de la Floride qui ont des gardiens de concession.
Exact.
Mais je parle rien que de tandem, que ça soit Merzlikin ou Graves à 6,2 millions, que ça soit Gibson Talbot à 8,9. Il y a rien qui rapproche 4. Donc, je pense que c'est un des trois tandems ou quatre tandems les moins chers de la Ligue nationale et par surcroît, qui sont capables de donner entre 40 et 50 victoires. Donc, moi, je pense que c'est clairement un des meilleurs tandems pour le moment, tant que Dobesch va continuer à gauler là-dessus, de cette manière, et en espérant que Montembeau va reprendre un peu où il avait laissé l'année dernière.
David, un nom qui est revenu dans l'actualité cette semaine, Nazem Kadri, bien sûr, en raison du début de la saison des Flames de Calgary. Et là, Pierre Lebrun disait cette semaine que le Canadien aurait à l'interne fait une liste de noms qui pourraient être potentiellement disponibles d'ici à la date limite des transactions. Et Nazem Kadri est bien sûr sur cette courte liste parce qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs de centre qui peuvent être disponibles. D'un, est-ce que tu es surpris d'entendre ça? Et de deux, est-ce que tu voudrais voir le Canadien de Montréal être dans ce derby Nazem Kadri?
Mais pour encore dire, c'est vraiment Kadri n'est pas nécessairement disponible pour le moment, du moins.
Ouais.
Moi, j'y crois pas du tout. Je crois que Kadri, là, avec 7 millions pour 3 ans encore, la situation dans laquelle les Flames sont, s'ils veulent faire un retool on the fly, comme on appelait ici avec Marc Bergevin, là, ça marche pas avec un gars de 35 ans qui a 7 millions par année et qui te donne maintenant à peu près 50 à 60 points, en règle générale 60 par saison. Moi, je suis pas un grand fan de d'une transaction Kadri. Je veux pas décevoir les gens à Montréal. Mais je pense qu'il pourrait fitter. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de joueurs disponibles, mais je pense que lui, c'est le genre qui pourrait être disponible. Mais on parle d'un gars encore là, qui avance, qui joue bien, qui est un peu plus âgé, j'ai pas de problème avec ça, mais dans le sac des mises en jeu, il est vraiment pas bon, Kadri. Il est 44%, 46%, 48% dans les 3 dernières saisons. Il ne gagne pas ses mises en jeu. Donc ça, pour les Canadiens, c'est nécessaire du côté gauche. Et ça, c'est problématique. Donc, c'est pas un gars qui gagne ses mises en jeu. Il va te donner à peu près 50 à 60 points. Donc, est-ce que le Canadien est une meilleure équipe avec Kadri? C'est clair que oui. S'il y a rien d'autre de mieux, est-ce que je prends Kadri? Ben oui, je prends Kadri, mais je l'ai encore 3 ans et demi. Moi, je vous lance un nom comme ça, les amis, qui est pas le nom le plus flashy, mais qui pourrait être une possibilité. Comme Kadri, rendu au temps de à la période limite des dates de transaction. Si Saint-Louis continue à aller mal de cette manière, Braden Schenn, c'est parfait pour les Canadiens de Montréal. Si on arrive là, rendu là, puis qu'on veut prendre un Kadri à 35 ans, 36 ans, t'es mieux de prendre un Schenn à 34 ans, il coûte 6,5 millions. C'est un gars qui a gagné aussi la Coupe Stanley. C'est un gars qui patine comme pas deux. C'est un gars qui il a de la âme, il est méchant, il est capitaine, il a du caractère. Il a 2 ans de contrat seulement à 6,5. Ça te donnerait le temps de faire venir d'autres joueurs. Moi, je pense que Saint-Louis, eux aussi, comme les Flames de Calgary, puis ils sont 30e dans la Ligue Saint-Louis à l'heure actuelle. Je pense que si eux non plus se replacent pas, on fait que regarder Calgary. Mais au centre, Thomas, que ce soit où ils ont été chercher Pius dernièrement, ils peuvent, si un reset graduel on avait avec Mayu, Saint-Louis peut-être va vouloir transiger ce gars de 34, 35 ans au centre, pour essayer d'aller se renflouer au niveau des choix et des prospects. Et je pense que ça pourrait être une transaction plus logique pour moi, pour le Canadien de Montréal. Et c'est un gars qui gagne ses mises en jeu. Il est à peu près à 53% du côté gauche. Donc, il remplit beaucoup plus de cases, à mon avis, que Kadri, et qui coûterait possiblement le même prix ou même moins cher, je dis.
Ouais, pas encore sorti parce que, comme tu dis, on est tôt dans la saison. Et rappelez-vous également que les deux DG ont déjà transigé. Avec Bolduc et Mayu, il y a eu plusieurs conversations au cours de l'été pour Jordan Kyrou, donc le courant passe bien aussi entre les deux DG, fait que ça pourrait faciliter les choses.
David, une petite question qu'on va passer aux auditeurs la semaine prochaine. Selon toi, okay, qui a le plus de chances d'arriver dans une saison entre Caulfield 50 buts ou Suzuki 100 points?
Cette saison, si on regarde la tendance, Georges, Suzuki, c'est 119 points si la tendance se maintient. Caulfield, c'est 67 buts.
Pas de
Donc,
sens.
Ça, c'est clair que ça va devoir revenir au neutre. Okay? Je ne peux pas imaginer que ça va continuer comme ça. J'espère bien que ça continue comme ça, mais les chances sont faibles. Moi, je me dis que c'est beaucoup plus difficile de marquer des buts que de faire des assists, des passes. Et je pense que Suzuki est arrivé beaucoup plus proche du 100 points que Caulfield du 50 buts. Donc, si tu me poses la question aujourd'hui, la logique dit que Suzuki devrait être beaucoup plus, devrait avoir beaucoup plus d'opportunités de frapper le 100 points que Caulfield le 50 buts cette année. Donc, je pense que, et c'est possible. Vraiment, le 100 buts, je pense, le 100 points, c'est possible pour moi. Je pense réellement que c'est possible cette année pour Suzuki. Caulfield 50, 40, j'ai pas de problème avec ça.
Ouais.
Mais 50, ça commence à devenir du, c'est des gros chiffres.
C'est quand même le fun, les gars, qu'on puisse parler de ça parce que c'est pas arrivé chez le Canadien de Montréal depuis Stéphane Richer puis Mats Naslund et ça fait beaucoup trop longtemps. Par contre, c'est des plateaux qui sont très gros. Si je vous pose la question, combien de joueurs ont marqué 50 buts l'année passée dans la Ligue nationale de hockey? Pour le fun, on s'amuse.
Moi, je pense que c'est peut-être un ou deux.
C'est un.
Maximum.
Ça, j'ai dit.
C'est un. Léon. Et combien de joueurs ont eu 100 points l'année passée? Les chiffres ont été un peu en baisse l'année passée, je dirais. Là.
Je pense que ça devrait être 4 ou 5.
C'est
6. 4 ou 5, je pense.
C'est pas pire, hein?
C'est 6 joueurs.
On est pas loin.
Fait que si un de Caulfield ou de Suzuki se rend là, c'est que ce sera des saisons assez magnifiques pour l'un ou l'autre.
Mmh. Effectivement.
Alors, OK. Maintenant, on continue le jeu, David, OK? Puis là, on s'amuse, et ça aussi, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu là-dedans. On se projette très loin, mais c'est intéressant. Quand on regarde chez le Canadien de Montréal, si on te pose la question après le 11 match, qui a le plus de chances de remporter un trophée cette année? Et les candidats, Demidov, le Calder, Saint-Louis pour le Jack Adams, Suzuki avec le Selke, Caulfield de Maurice Richard, ou même Hudson avec le Norris, qui a le plus de chances de voir son nom associé à un trophée à la fin de la saison?
100% Demidov. Même pas proche. Et je m'explique. Saint-Louis, certainement, il y a des chances. Mais il y a trop d'impondérants. Le Jack Adams n'est pas nécessairement donné au meilleur, à l'entraîneur qui fait le plus de points dans une saison. C'est lui qui a le plus surpris. Donc, ça peut être un coach qui a pris une mauvaise équipe dans les séries. Ça peut être plein de choses. Demidov, c'est pas compliqué. Il est dans une course avec Schaefer, il est dans une course, on peut peut-être ajouter Bouillon. Il est dans une course. Lui, il n'y a rien qu'à performer, à être le meilleur, et il gagne le trophée. Donc, lui-même a le dernier mot. Quand on parle de Suzuki, je pense qu'on va avoir beaucoup plus de reconnaissance cette année pour Suzuki comme joueur sur 200 pieds pour le Selke, mais il n'est pas rendu pour le gagner là. On n'est pas rendu là. Caulfield, comme on en a parlé avant, c'est pas sûr encore qu'il va finir avec du 50 buts. C'est peut-être un peu éloigné. Donc, moi, je pense que Demidov, il est déjà premier meilleur marqueur des recrues dans la Ligue nationale. Il va avoir des opportunités de jouer. Là, on l'a mis sur la première vague. À partir de maintenant, jusqu'à la fin de la saison, s'il ne se blesse pas, il va être capable d'être en position de performer. Et avec tous les joueurs que les Canadiens ont à lui donner sous la main, surtout en avantage numérique, je pense que ça va lui permettre de mettre beaucoup de points sur le tableau, ce qui devrait lui donner l'avantage de gagner le trophée Calder pour une deuxième année de suite pour un joueur des Canadiens de Montréal. Donc, je pense que ça va être lui. Par ailleurs, je ne serais pas surpris que tous les autres noms que vous m'avez nommés soient dans les top 3 ou dans le pire top 5 de chaque trophée. Donc, ça c'est beaucoup plus probable.
Là, David, tu regardes Cooley et Harley, leur contrat qu'on signe au-dessus de 10 millions. Ton impression sur leur contrat qu'on signe, dont surtout celui de Harley, là, c'est pour toi, tu trouves que c'est un bon contrat. Puis en même temps, quand tu compares ces contrats-là avec celui de Slav et Hudson, ta comparaison par rapport aux Aubaines, si tu compares tous ces contrats-là.
Est-ce qu'on est content d'avoir Jeff Gorton et Ken Hughes comme DG avec les Canadiens de Montréal?
Mazan.
Moi, il y a une affaire qui m'a inspiré, les gars, quand j'ai vu cette... J'ai rien contre Cooley et Harley, là, il faut comprendre. Harley, j'ai toujours été fan depuis qu'il est junior. C'est un gars de 6 pieds 3, 215 livres, il frappe, il est capable, il te met 50 points par saison. Il le mérite son 10,5 millions. Il n'y a pas de problème. Je n'ai pas de problème avec ça. Il fait partie des discussions pour les Olympiques. Tout ça, il n'y a pas de problème. Cooley, c'est un joueur de centre qui va te donner un point par match. Peut-être un peu plus. C'est un gars qui va te donner 80, 90 points comme joueur de centre. Slav, on parle d'un power forward, les amis, qui va te donner entre 60 et 70 points dans ses meilleures saisons. Peut-être 75 une fois. Mais un gars qui fait la sale besogne, qui va dans où ça fait mal. Hudson, défenseur offensif générationnel, comme un Quinn Hughes, un Cal Makar. Tu prends les deux ensemble, Slav, Hudson, là, je les échange pas contre Cooley Harley. Deux contre deux, je les échange pas. Et quand tu parles en plus de salaire, même on dirait que tu peux débattre, OK, Hudson, un gars qui va te donner en 80-90 points, ou Harley, un gars de 50 points qui fait 6 pieds 3. OK? Ou est-ce que tu prends Cooley, un gars de 80-90 points, ou est-ce que tu prends un Slav qui va te donner 70 points, mais qui a un power forward, qui se met devant le filet, qui va où ça fait mal, qui complète le premier trio? Et d'abord et avant tout, ce que j'ai aimé le plus de tout ça, c'est que Slav et Hudson l'ont fait avec classe. Ça veut dire quoi? Ils ont signé pour le bien de l'équipe. On a vu ce que Cooley a fait, c'est sorti dans les médias, comme quoi, pourquoi il accepte pas 9,6, puis c'est 10 millions, puis c'est pas, ça a pas le même goût dans la bouche. La signature de Cooley que la signature de Slav, exemple avec les Canadiens de Montréal, qui a laissé de l'argent sur la table, qui a dit « Moi, je veux jouer là, je veux gagner là. » Hudson, il a fait la même affaire. Donc, tu as des gars qui veulent jouer là, qui ont décidé de baisser leur salaire là et qui, à mon avis, dans une équipe championne de la Coupe Stanley, je préfère avoir ces deux genres de joueurs avec des caractères comme ça qu'un gars qui veut aller chercher le plus d'argent possible et un défenseur qui me donne 50 points à 6 pieds 3. Les Canadiens, des défenseurs de 6 pieds 2, 6 pieds 3, 50 points, on l'a déjà avec Thompson. Okay, on l'a possiblement même avec Matheson. On l'aura possiblement si Ryan Backer reste en santé. On a un gars qui peut nous donner 40 points, qui joue le même style de jeu quand on parle de Goulet. Donc, je pense que les Canadiens de Montréal, deux joueurs pour deux joueurs, 4 millions de lousses en plus sur le cap, les amis, par année. Si Jeslav Hodgson versus Goulet et Harley, les Canadiens économisent 4 millions par année. Vous savez ce que je peux aller chercher de plus avec 4 millions? Je peux aller chercher un troisième joueur de centre de qualité, rajouter 2 millions et demi, 3 millions, aller chercher un vrai deuxième centre, ce que je ne peux pas faire avec les deux autres. Donc, dans l'ensemble, dans l'œuvre de bâtir une équipe championne de la Coupe Stanley, la réponse, elle est là, les amis, c'est le Slav Hodgson à 100 000 à l'heure avant les deux autres.
Et en terminant, David, on s'est posé la question hier avec Georges, puis je suis curieux de t'entendre là-dessus. Si le Canadien, est-ce que le Canadien est une meilleure équipe avec Logan Cooley ou avec Slav?
Non. Avec Slav.
Tu prends Slav?
Logan, ben, je vous explique pourquoi. C'est que, est-ce qu'on parle des Canadiens de Montréal actuels?
Oh oui, actuellement.
Actuel, actuel.
Oui, parce actuel. Que là, on cherche un deuxième centre. Là. Fait que si tu cherches un deuxième centre, est-ce que tu prends Cooley pour te déshabiller ailleurs? Tu sais, je trouvais que c'était intéressant comme réflexion.
C'est facile. La réponse, c'est Slav. Et je vous dis pourquoi. Les Canadiens ont fait le bon choix. Premièrement, au niveau du caractère, j'aime Slav. Mais deuxièmement, si les Canadiens n'ont pas de Slavkovski, ils devraient trouver un Slavkovski.
Oui, ça, c'est sûr.
Parce que dans leur formation, on a un Demidov qui plante Cooley dans le talent. Je comprends que c'est un centre, mais on a des joueurs de talent, Caulfield, Suzuki, on en a des gars de talent comme Cooley, pas de problème. Mais le gros gars, vous savez, les amis, moi, j'avais des joueurs que je nommerai pas de nom, des joueurs vedettes dans l'exercice national que j'ai représenté qui était sur le premier trio et qui jouait sur le premier power play, puis qui me disait toujours, David, j'ai pas envie de me mettre les deux pieds devant Chris puis recevoir les doubles échecs dans le dos pendant l'avantage numérique. Moi, je veux que ça soit tel joueur.
Je sais qui tu parles en plus.
OK. Entre autres, parce que j'en ai eu plusieurs comme ça, mais les joueurs, là, ils veulent pas aller où Slav, il va aller. Slav va aller où ça fait mal, il va se la fermer, il va prendre les coups, il va bousculer, il va faire la sale job, OK, que des joueurs veulent pas faire. Donc, je pense que si les Canadiens n'avaient pas un Slavkovski, ils devraient aller le chercher. Et une équipe comme la Floride, ils n'ont pas pu gagner jusqu'à qu'ils ont été chercher un gars comme Kachuk. Ils n'ont pas pu gagner sans un gars comme Bennett. Ils n'ont pas pu gagner pas avec un gars qui fait 100 points. Ils n'ont pas pu gagner parce que ça leur prend un joueur qui va où ça fait mal et qui a le physique pour le faire. Et ça, c'est Slavkovski. Donc, dans l'ensemble, c'est clair pour moi que Slav est une valeur supplémentaire dans l'ensemble des Canadiens de Montréal, dans ce qu'ils essaient de bâtir aussi.
David, merci, toujours David. Un plaisir. Merci beaucoup, David. Bonne semaine et on se reparle la semaine prochaine.
Bonne semaine, les amis.
Yes, salut, David.